Michèle Decoust est réalisatrice, grande voyageuse, auteure et auteure entre autres d'un roman qui a pour titre Le rêve de White Spring et réalisatrice d'un film qui a pour titre Bouddha et la biosphère. Jean-Pierre Gou est auteur aussi, auteur d'un premier roman qui est aussi le premier tome d'une saga qui interroge un petit peu notre époque. Et si je leur ai demandé de venir ensemble ce matin, c'est parce qu'ils ont un point commun. Tous deux parlent ou évoquent la biosphère, le plus grand laboratoire d'écologie jamais construit. Alors, en fait, Michel Decoust, bonjour. Jean-Pierre Gou, bonjour.
Bonjour.
Vous avez vécu tous les deux cette expérience, mais de manière très différente, parce qu'en fait, vous, Michel, eh bien, vous avez véritablement vécu l'expérience, puisque vous êtes allé à la biosphère, vous avez vécu pendant quelques temps, quelques mois.
Pas à l'intérieur de la bulle, à l'extérieur de la bulle, c'est-à-dire j'ai participé et filmé toute la construction de cette bulle écologique qui a demandé 20 ans d'incubation et pour rassembler toutes les expertises scientifiques, mais qui a demandé 5 à 6 ans de construction. Et moi, je suis arrivée en 88 et je suis restée jusqu'en 91, au moment où la bulle s'est fermée. Donc, j'ai filmé vraiment toute la construction de la bulle, tous les gens qui venaient là. Et je m'occupais en plus de la gestion des grands documentaires sur la biosphère, quand elle était en cours de construction et quand elle a été terminée, d'ailleurs. Et ça a été extrêmement intéressant parce que ça a été le contact avec des points de vue du monde entier, puisque le monde entier est venu faire des documentaires sur la biosphère.
Et Jean-Pierre Gou, en fait, vous avez découvert Biosphère 2, alors c'est très très précis, en novembre 88, dans un numéro de Science et Vie. Alors ça véritablement, c'est une date importante. Est-ce que c'est grâce à ça que ça a éveillé votre intérêt pour les sciences et l'environnement? Mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là quand vous avez vu cet article dans Science et Vie, ouais, sur Biosphère 2?
Alors oui, moi je suis plus jeune que Michel, et donc j'ai découvert en 88, je devais être en classe de 3e, et je lisais Science et Vie à l'époque, et effectivement j'avais vu un reportage sur cette expérience, et le concept de bâtir en plein milieu du désert une serre étanche dans laquelle des humains et des plantes pouvaient vivre en autarcie pendant 2 ans, j'avais trouvé ça extraordinaire, et toute la période avant le lancement de l'expérience, donc de 88 à 91, moi j'étais pas du tout sur place, hein. J'étais chez moi à Nice, chez mes parents, mais j'ai suivi dans le peu de presse qu'il y avait en France, les étapes de la construction, et c'est toujours une expérience qui m'a fasciné et qui me fascine depuis, et c'est pour ça que j'en ai parlé dans mon roman Siècle Bleu.
Siècle Bleu. Michel Decoust, vous avez vécu l'expérience, on l'a vu, vous étiez à l'extérieur un petit peu de la bulle, on va parler de ce qu'est vraiment Biosphère 2 dans quelques instants, mais comment une Parisienne peut se retrouver dans le désert de l'Arizona?
Par une histoire d'amour. C'est-à-dire que j'ai rencontré en fait en Australie le visionnaire de la biosphère, parce que la biosphère, il faut le dire d'emblée, a réuni autour de 25 ans, donc un quart de siècle de recherche écologique appliquée, puisque le groupe de la biosphère existait depuis fin des années 60 et a eu des projets, 7 projets dans le monde entier, dont dans les savanes australiennes, où j'ai vécu et où j'allais régulièrement. Ils avaient construit un bateau pour étudier les océans, les savanes australiennes, pour la régénération des écosystèmes des savanes. Ils avaient un projet à Porto Rico qui était l'étude et la régénération des forêts tropicales. Ils avaient un projet d'agriculture biodynamique en France, enfin biologique d'abord et biodynamique maintenant, dans une ferme près d'Aix-en-Provence. Donc, et le bateau permettait d'explorer les océans et les récifs coralliens. Donc, avant de construire la biosphère, il faut dire qu'il y avait ce quart de siècle d'écologie de terrain bien avant que l'écologie soit à la mode. Et donc, moi, j'ai rencontré une femme dans un avion qui allait sur un ranch. Moi, je faisais une série de films sur les surfeurs en Australie. Et donc, je n'étais pas vraiment dans l'écologie, mais j'avais vécu 3 ans sur un bateau de pêche et j'avais vu comment on pouvait complètement dépeupler de ces poissons l'océan Indien. Donc j'avais déjà cette sensibilité. Et puis je les ai rencontrés dans ces savanes. Et là, c'était des gens hors normes pour moi. J'ai rejoint donc cet ami que j'avais rencontré dans l'avion, qui m'avait parlé de ce ranch, pas du tout de la biosphère. Et là, j'ai vu des gens du monde entier faire du théâtre le soir, cultiver, être sur des tracteurs dans l'après-midi, sur des chevaux pour rassembler le bétail. Enfin, j'ai vu des gens de la Renaissance, des gens qui savaient tout faire. Et ça m'a complètement séduite, mais on parlait très peu de la biosphère à l'époque. Et puis, ils m'ont invité à Aix-en-Provence, où ils avaient des conférences internationales depuis les années 80, où ils réunissaient des experts internationaux pour justement, en amont, nourrir ce projet de la biosphère, le valider au niveau des instances internationales scientifiques, parce qu'ils savaient qu'ils étaient en avance sur leur temps, et l'histoire a prouvé qu'ils étaient en avance de 20 ans sur leur temps. Donc, il y avait des experts qui eux-mêmes étaient en avance sur leur temps et qui étaient une nourriture, une validation, et qui ont accompagné la construction de la biosphère. Et là, j'ai rencontré un homme pour qui j'ai eu un coup de foudre, et il s'est trouvé que c'était l'architecte de la biosphère. Donc, je pense que quand je suis arrivée en Arizona, je connaissais très peu de cette histoire. J'y comprenais rien. Mais je savais juste que c'était des gens hors normes. Moi, je suis assez attirée par les pionniers depuis toute petite. Et je sentais qu'ils allaient dans le sens du vivant. Que tout leur discours qui était transdisciplinaire, intégratif, holistique, tout ça était des mots à peine prononcés dans les années 80. Eux, ils le vivaient depuis les années 70. Ils étaient les héritiers des activistes américains, on pourra peut-être revenir là-dessus, et de la Beat Generation pour John Allen, donc de Kerouac et tout ça, puisque John Allen a très bien connu Allen Ginsberg, Kerouac, et dont on parle beaucoup aujourd'hui, et aussi William Burroughs, qui venait régulièrement à la biosphère. Donc c'était des audacieux, des courageux et des actifs, c'est-à-dire c'était des rêveurs qui mettaient en pratique leur utopie. Et moi, comme je suis une rêveuse active, ça me correspondait parfaitement. Donc, je suis arrivée par une histoire d'amour. Dans cette histoire, j'ai rejoint Phil Hawes, qui était l'architecte de la biosphère, sans savoir que c'était qui il était. D'ailleurs, les coups de foudre sont aveugles. Et donc, je suis arrivée sur ce projet auquel je n'ai rien compris au départ, sauf que la biosphère sortait du sol. Donc, je suis arrivée fin 88, elle sortait du sol. Ils avaient déjà fait les fondations souterraines et ils commençaient à mettre la première arche de verre quand je suis arrivée. Et on m'a dit tout de suite, tu fais des films parce qu'ils sont pragmatiques, et ben t'as qu'à filmer. Et les premières caméras I8 de l'époque sortaient, je me suis acheté une caméra qui pesait 5 kilos et pas 13, donc ça c'était une chance. Et puis j'ai commencé à filmer la construction et à vivre mon histoire d'amour et à vivre dans ce groupe. Nothing remains. We could run when the rain snows. Look for the cause or signs of life where the heat goes. Look for the drifters. We should crawl under the bracken. Look for the shafts of light on the road where the heat goes. Everything has changed. For in truth, it's the beginning of nothing, and nothing has changed. Everything has changed. For in truth, it's the beginning of an end. Nothing has changed. Everything has changed.
In your field,
of what we have become, take to the fire. Now we must burn all that you are.
Seek
rise together through these clouds as onward.
Ça, c'est un morceau de David Bowie. C'est un homme que j'adore parce qu'il est lui aussi transdisciplinaire, holistique. C'est un peintre, c'est un styliste. C'est un type qui avait fait Ziggy Stardust dans les années 70, où il était androgyne, il se métamorphosait, il avait un lien avec l'espace, il parlait toujours de l'espace. Donc c'est quelqu'un qui se renouvelle tout le temps et qui a une espèce d'éternelle jeunesse, comme ça, comme tous les grands créatifs qui n'ont pas du tout coupé avec leur imaginaire d'enfant. Et John Allen, le visionnaire de la biosphère, avait ce côté polymorphe et bon, pas androgyne, mais et qu'il était à la fois un scientifique, un poète, il écrivait des pièces de théâtre.
Un ingénieur aussi.
Ingénieur au départ et un syndicaliste, puisqu'il avait dirigé les syndicats de la métallurgie à Chicago. Donc ça, c'était pas rien. Et un visionnaire et qui avait fait aussi tout un parcours initiatique. Il avait tout abandonné. Il avait autour de 45 ans. Il était allé en Inde, en Afghanistan, etc. Et là, il a eu des initiations avec des maîtres. Il en parle peu, mais c'est des. Moi, j'ai fait des interviews avec lui. C'est des initiations assez poussées, avec des maîtres indiens. Et il a rencontré à Londres les groupes Gurdjieff, qui étaient liés au soufisme. Et qui étaient des groupes de travail sur soi. Voilà. Alors, c'était pas du tout une secte, c'était très pragmatique. Les groupes Gurdjieff, c'était appliqué dans la. On travaillait sur soi en faisant du théâtre, et puis on travaillait sur soi surtout dans la matière. C'est-à-dire, moi, quand j'étais à la biosphère, le matin, je m'occupais du. Alors, il y avait un banc d'essai de toutes les plantes, les animaux, etc., avant qu'on les mette à l'intérieur de la biosphère. Et moi, je travaillais le matin. Dans le jardin tropical. Ensuite, je m'occupais de la mesure des gaz, comment on pourrait mesurer des gaz sans qu'on utilise des produits chimiques, des insectes. Et puis l'après-midi, je m'occupais de filmer tout ce qui se passait à la biosphère, y compris l'avenue de Marlon Brando. Il y avait des gens qui étaient absolument passionnés. Il y avait David Cronenberg qui venait, ce réalisateur visionnaire qui venait régulièrement et qui voulait. Certains voulaient se servir de la biosphère, d'ailleurs, comme décor. De films de fiction.
Oui, parce qu'en fait, c'était une mini-terre sous cloche qui abritait donc sept écosystèmes, dont une forêt tropicale, un océan, une savane, un marais, un désert, des zones d'agriculture. Biosphère 2, pourquoi ? Parce que la Terre, c'est la Terre qui est biosphère 1.
Absolument. Et biosphère 2 n'est pas une analogie de la Terre, parce que c'était sur 1,5 hectare au sol et ensuite 1,5 hectare de machines pour faire le vent, la pluie, etc. Donc, il y avait une grande technologie pour reconstituer tout ce qui permet à la vie de se développer. Mais ce qui était très novateur, c'est que tous ces écosystèmes communiquaient. Et à l'époque, il y a 25 ans, on ne disait pas que tous les écosystèmes communiquent, que les courants où il y a du pétrole peuvent aller en Antarctique, que tout circule à la fois à travers l'eau, l'air, etc. Eux le savaient et tous les écosystèmes étaient reliés.
Quand tu avais une pollution d'un côté, elle se retrouvait quelques heures après.
Absolument.
Et très vite, puisque c'est effectivement un petit écosystème.
Absolument. Donc c'était un petit écosystème où l'être humain était partie de. Maintenant, on dit l'être humain fait partie du vivant, mais eux l'avaient déjà dit. Et ils étaient aussi liés aux Hopis, aux Indiens Hopis du coin. Et ils intégraient aussi les savoirs des peuples premiers. Donc, ils faisaient le lien avec des savoirs ancestraux, comme comment cultiver sur très peu d'espace en Chine, et aussi des savoirs premiers. Puisque la biosphère s'est faite au milieu du désert de l'Arizona sur d'anciens sites Hopi. Et ils étaient en contact avec les Indiens Navajo. Donc, ce côté, on est fait partie de la nature et on dépend de la nature pour notre survie, ils l'ont complètement intégré. Donc, on fait partie de la nature, c'est les savoirs chamaniques. Et on dépend totalement de la nature pour survivre. C'était des savoirs qu'ils avaient totalement intégrés, qui maintenant, scientifiquement, on prouve, mais eux l'avaient prouvé en le vivant. C'est-à-dire que rien que construire cette biosphère, c'était déjà relier écologie et technologie, puisqu'il y avait 250 ouvriers qui, certains s'occupaient de fabriquer cette biosphère, qui était une bulle en verre avec du béton, avec, il n'y avait pas que des matériaux organiques, surtout qu'à l'époque, c'était pas trop, c'était à coûter très cher. Et puis, il n'y avait pas les panneaux photovoltaïques, c'était très cher. Donc, ils n'ont pas totalement fait en matériaux recyclables, etc. Ça, ne faut pas dire ça. Mais à l'intérieur de la bulle, il y avait donc une savane, un océan, un marais, un désert humide, puisque tout circulait. Donc, c'était un désert humide sur le modèle du désert de Baja California, au Mexique. Des coraux ramenés du Mexique et des Bahamas. Et c'était comment on peut faire vivre tout ça. C'est quoi la vie? Au fond, c'est quoi la vie? Et nous, au milieu de la vie? Et si on ne s'occupe pas dans cette bulle, on a mis 8 personnes pendant 2 ans, dans cette bulle totalement fermée, si les gens, les 8 personnes ne soignaient pas leur environnement, elles ne respiraient plus, au sens propre du terme. C'est-à-dire que si elles ne faisaient pas attention à la forêt tropicale, qui était quand même le poumon de leur système, comme pour la Terre, elles ne fabriquaient plus d'oxygène. Et si elles polluaient leur eau le soir, elles l'avaient dans leur café le lendemain matin. Et ça, c'était formidable. Parce que ça montrait que les cycles de pollution étaient très courts et ça montrait la responsabilité que non seulement les gens étaient gardiens de leur environnement, mais totalement responsables, et pas simplement totalement responsables de la vie des insectes, des animaux, etc., mais de leur propre vie. Et ça, ils avaient cette notion-là dès les années 70. Et maintenant, où l'écologie est totalement à la mode et totalement galvaudée aussi, et utilisée et récupérée, eux avaient toutes ces visions-là qu'ils mettaient en application. Parce que mettre 8 personnes pendant 2 ans dans une bulle sous cloche complètement close, sans faire rentrer du tout de nourriture, aucun intrant, sauf l'information, mais comme la biosphère terrestre, la bulle était fermée à tout ajout de matière, comme notre Terre, à part les météorites qui lui tombent dessus, et elle vivait de l'énergie solaire et aussi d'un centre énergétique qui complétait l'énergie solaire. Et puis, en même temps, ils pouvaient communiquer. Moi, je leur téléphonais. J'étais à l'extérieur, je pouvais leur téléphoner. On pouvait complètement être relié à eux. Et la Terre est ouverte à l'information. Les gens des satellites peuvent communiquer. Les gens qui ont été envoyés dans l'espace pouvaient communiquer avec la Terre. Donc, ils ont recréé un analogue, une métaphore de la Terre, pas un analogue exactement, mais en tout cas une analogie totale dans la situation de l'être humain au milieu d'un espace vivant.
Alors, Jean-Pierre Gou, cette expérience tout à fait novatrice, expérience pionnière, vous a passionné. Vous étiez beaucoup plus jeune, il y a une génération qui vous sépare à peu près. Et vous avez rencontré, en fait, celui qui est le visionnaire de la biosphère, John Allen, récemment, c'était l'année dernière, et grâce, je crois, aussi à Michel. On ne va pas raconter l'histoire, mais en tous les cas, quel genre d'informations vous souhaitiez?
Moi, ce que je souhaitais connaître, enfin, Michel a beaucoup parlé de l'idée et puis de la vision qui habitait ce projet que je trouve toujours ahurissante et qu'il faut vraiment continuer à faire connaître parce qu'il n'y a pas d'autres projets aussi ambitieux ou aussi éclectiques que celui-là. Enfin, il y en a quelques-uns, mais c'est quand même dans des projets dont l'humanité devrait se rappeler. Et moi, ce qui m'avait toujours frappé, c'est que ce projet, du jour au lendemain, il a disparu, quoi. Et on n'en a plus entendu parler, il a été critiqué. Et je voulais savoir quelle était la véritable nature de ces critiques. En 91, les gens sont rentrés dans la biosphère sous les applaudissements et ils en sont sortis presque sous les sifflets. Et avec une presse qui était extrêmement véhémente contre eux, avec beaucoup de critiques, et c'était très difficile de faire la part des choses, surtout quand on était en France. Alors moi, après, je suis parti aux États-Unis travailler en 97, pendant 4 ans à Chicago. Je suis allé à la biosphère, voir la biosphère, parce que déjà, je voulais voir le lieu. Le lieu est absolument splendide, au milieu du désert d'Arizona. C'est somptueux, et puis toute cette région, elle est habitée.
Alors, on sent qu'il y a des... La bulle existe toujours.
La bulle existe toujours.
C'est une friche à l'intérior, aujourd'hui.
Alors, Donc la bulle existe toujours, elle est en très bon état, hein, l'extérieur, l'architecture, il n'y a pas de problème. Elle est plus étanche parce qu'il faudrait remettre quelques joints pour qu'elle soit à nouveau étanche. Mais en revanche, à l'intérieur, les écosystèmes, bah, déjà, ils sont dans un état catastrophique. Moi, l'océan était vide, on aurait une piscine avec de l'eau saumâtre. La forêt vierge empiétait sur la savane. La zone d'agriculture avait été séparée des autres écosystèmes. Et puis tout ça, en fait, ils avaient complètement cloisonné les différents écosystèmes les uns avec les autres, et donc ça communiquait plus. Donc la biosphère en elle-même était morte, mais surtout le projet était mort. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était Columbia University, la grande université new-yorkaise, qui avait un centre d'étudiants là-bas.
Quand vous y étiez. Hein,
quand j'y étais.
Voilà, c'est ça.
Columbia University, donc dispenser des enseignements sur l'écologie là-bas. À un moment, je m'étais même posé la question de m'inscrire à ces enseignements. Mais j'avais trouvé ça extrêmement, on va dire, réducteur et à l'opposé des enseignements que je cherchais là-bas, qui auraient dû être transdisciplinaires et puis fédérateurs. Et là, bon, il y avait des disciplines, la gestion de l'eau, la gestion des déchets, des choses qui, finalement, on aurait pu étudier n'importe où ailleurs, à New York, par exemple. Il n'y avait aucun intérêt à aller dans l'Arizona. Donc, c'était à la fois décevant. Et puis, surtout, il n'y avait aucune trace des pionniers qui avaient mener ce projet à l'époque. Et moi, ces gens-là m'avaient fait rêver. Il y a des gens très jeunes, très beaux, très, je sais pas, qui exprimaient une vie incroyable, et il n'y avait quasiment plus de traces de ces gens-là. Je m'étais dit, je vais aller là-bas pour acheter des livres. Il n'y a aucun livre en vente en rapport avec l'expérience. Donc, j'étais parti à la fois habité par le projet, puis très déçu. Et je m'étais dit, il faut que je rencontre les gens qui étaient derrière cette expérience pour savoir ce qui s'est passé, pourquoi il y a cette omerta. Donc, la première personne que j'ai rencontrée, c'était Michel, suite à la publication du rêve de Wellspring. Après, on avait rencontré ensemble des amis de Michel, Laser et Guy, qui sont deux des huit qui faisaient partie de la première expérience, des gens extraordinaires. Et puis, il y a un an, effectivement, j'ai rencontré John Allen. Et là, j'ai vu à la fois un monsieur donc, qui a eu à peu près 80 ans maintenant, qui a des yeux incroyables, avec une lumière incroyable. Bon, c'est quand même quelqu'un d'âgé, un peu fatigué, mais qui a toujours une mécanique d'esprit extrêmement rapide et qui, dès qu'on le lance, c'est quelqu'un qui est impressionnant intellectuellement. Mais j'ai senti quelqu'un qui était brisé, quoi, à qui on avait brisé un rêve. Et bon, la fin de la première expérience, c'était 93, donc il y a 17 ans. Et il disait, il lui a fallu plus de 10 ans pour se remettre de l'échec. Alors lui, il ne voit pas ça comme un échec, il voit ça comme un projet qui a été complètement sabordé par des forces externes, dont on pourra parler. Mais j'ai vu quelqu'un qui avait un rêve énorme et qui n'a pas pu le réaliser. Et ça, c'était très dur. Et j'ai essayé, moi, dans le livre, d'essayer de le poursuivre, parce que j'ai essayé de mettre de la vie dans ce site, mettre des gens qui croyaient aux mêmes utopies.
Alors, on va s'interrompre quelques instants et puis on va vous retrouver donc Jean-Pierre Gou et Michel Lecouz. Je rappelle que Jean-Pierre Gou, vous êtes l'auteur de ce livre qui a pour titre Siècle bleu, qui est un livre qui est publié aux éditions
JBZ et compagnie.
JBZ et compagnie. Et Michel Lecouz, vous êtes l'auteur de ce livre qui s'appelle Le rêve de Wellspring, qui est publié chez
Au Seuil,
et aussi l'auteur de ce film qui retrace un petit peu l'histoire de cette expérience pionnière et qui a pour titre Bouddha et la biosphère. Voilà, Michel Decousse, Jean-Pierre Gouve, on se retrouve, on parle aujourd'hui de cette expérience de la biosphère, de Biosphère 2. Alors, on l'évoquait tout à l'heure, ça a duré 2 ans, 8 humains donc, ont pénétré à l'intérieur de la biosphère et ils sont restés 2 années, c'était en septembre 91. Ils ont vécu dans cette sous-cloche qui abritait cet écosystème. Hein. Voilà. Et puis, c'est une expérience quand même qui n'a pas marché et c'est ce qui vous a interrogé, Jean-Pierre Gouve, c'est la raison pour laquelle vous avez essayé d'en savoir un petit peu plus pourquoi est-ce que cette utopie n'a pas fonctionné. Alors, est-ce que vous êtes allé au bout de la réponse?
Oui, alors je vais donner quelques éléments, puis Michel complétera, puisqu'elle a vécu vraiment sur place à l'époque. Donc, je ne pense pas qu'on puisse parler d'un échec, parce qu'il y a eu des tas de choses. Moi, je vais peut-être parler des choses qui ont marché, puis Michel parlera des choses qui n'ont pas marché. Il y a quand même dans ce que ça a apporté des choses extrêmement positives. Déjà, c'était un projet qui a permis de fédérer des scientifiques très connus qui les ont fait travailler ensemble avec un but commun, transdisciplinaire. Et ça, il y a peu d'expériences qui ont réuni des gens aussi talentueux de toutes les universités du monde. Donc ça, c'était déjà quelque chose de très favorable. Ils ont fait des découvertes importantes sur la façon dont l'homme peut vivre avec des taux de CO2 extrêmement importants. Ils ont vu comment le CO2 pouvait être capté par le béton et du coup disparaître et créer des déplétions d'oxygène. Et ça, c'était quelque chose qui était nouveau.
Oui.
Ils ont créé des systèmes de recyclage des boues. Enfin, il y a eu beaucoup de choses, mais surtout, ils ont appris que pour vivre dans une biosphère fermée, bah, ça demande un effort considérable. Et rien que vivre dedans, entretenir son environnement, bah, c'est presque un travail à temps plein. Quoi. Et
oui,
ça, c'est
parce qu'ils devaient recycler. Il ne faut pas oublier que dans cette biosphère fermée, ils devaient recycler tout leur eau, leur air, leurs déchets. Ça se faisait complètement... Donc, n'importe quelle pollution devenait... tout de suite toxique dans un petit environnement.
Avec une prise de conscience très forte que le monde est complètement interconnecté.
Voilà, et donc ça, c'est vraiment quelque chose... Enfin, pour moi, c'est le plus grand apport de cette expérience, c'est que même s'il y a eu des à-coups, ils ont été obligés à des moments de réinjecter de l'oxygène. Enfin, c'était un premier essai. Hein. Le monde ne s'est pas fait en une seule fois. Et ils auraient pu mieux communiquer, expliquer que, OK, il y a eu un problème, on ne l'avait pas anticipé, donc on va injecter, mais tout était mesurable. Michel parlera des problèmes de communication qu'il y a eu après. Mais l'expérience était positive. Les gens ont quand même vécu 2 ans dans des conditions extrêmement dures.
Difficile.
Ils ont vécu quand même en autarcie pendant 2 ans avec des petits bémols. Mais c'était quand même une expérience à la fois humaine et scientifique remarquable.
Ils en sont sortis épuisés, je crois.
Enfin, c'était pas un échec sur le coup. Ouais. Mais après, ça a été présenté comme un échec. Et il y avait beaucoup de choses qui pouvaient ne conduire de toute façon qu'à une forme d'échec. Et là, je vais laisser la parole à Michel.
Ouais, je veux rajouter pour leur rendre hommage, c'est qu'ils étaient 8 à l'intérieur de la bulle. Ils devaient être techniciens, ils devaient savoir réparer. Et parce qu'ils avaient eux-mêmes construit la biosphère, il n'y avait pas une séparation des gens. Ils étaient au milieu des ouvriers, ils étaient sur le chantier tout le temps. Donc Gay était plus responsable de l'océan, donc c'était plus l'océan. Mais ils ont construit les systèmes techniques, ils ont fait venir les systèmes vivants. Ils ont été les chercher eux-mêmes. Donc, ils ont pu réparer cette biosphère puisqu'ils l'avaient eux-mêmes construite avec les ouvriers. Et donc, ils étaient techniciens, ils étaient agriculteurs. Il y en a un dans Boudaï, la biosphère, qui dit « D'habitude, je me servais dans mon frigo et je prenais une pizza congelée et je la réchauffais, ça me prenait 1 minute. » Là, pour faire une pizza à l'intérieur de la biosphère, il faut d'abord faire pousser le blé, il faut faire la farine, il faut traire la chèvre, il faut faire le fromage de chèvre. Il disait, il me faut 4 mois pour faire une pizza. Donc, rien que ça, surtout par rapport à la société de consommation américaine, montrer que si on fait soi-même les choses, ça prend tout ce temps, ça prend toute cette énergie, et ça prend... Là, tout se faisait sur place. Donc, pour manger, il fallait qu'ils se donnent à fond. Je pense que l'agriculture leur prenait 4 heures par jour. Il fallait qu'ils soient écologistes, il fallait qu'ils soient botanistes, il fallait qu'ils connaissent les insectes, il fallait qu'ils connaissent tout. Donc, ils soient comme ces hommes de la Renaissance qui étaient complètement polyvalents. Il n'y avait pas celle qui était en charge de cultiver pour les autres, du tout. Et je pense qu'on a cet enjeu-là aujourd'hui, puisque les gens disent qu'il faudrait faire nos jardins potagers pour être sûr qu'on mange des fruits et légumes, puisque ça devient tellement cher. Ça... Voilà. Je veux dire, plus je me replonge dans cette histoire, plus je m'aperçois que c'était totalement prémonitoire et visionnaire, puisque ce qu'on demande aux gens d'aujourd'hui, c'est de faire partie de l'environnement, être responsable de l'environnement, et d'être à la fois intellectuel, manuel, agriculteur, etc.
Alors justement, si ça n'a pas marché, est-ce que c'était pas parce que c'est arrivé trop tôt? Aujourd'hui, une expérience comme ça, elle marcherait. Je veux dire, 25 ans après, il y aurait déjà ne serait-ce que les médias, il y aurait Internet, ouais. Tout le monde serait connecté du monde entier pour
surtout
voir
que c'était
comment ça
très
se passe.
Visuel, et comme dit Jean-Pierre, c'était très beau à regarder, ouais. C'était des bulles ouais, de verre, ça venait des dômes de Buckminster Fuller, ils avaient des grands inspirateurs, ou de la conception de Vernadsky, ce russe, que, bien avant l'hypothèse Gaïa, que la Terre était un corps vivant. Donc, ils allaient chercher chez les Russes qui n'existaient pas encore. Lovelock s'est inspiré de Vernadsky. Donc, il y avait toutes ces visionnaires ensemble, hein, y compris les experts dont parlait Jean-Pierre, oui. Etc. Ce qui n'a pas marché, c'est plusieurs choses. Effectivement, ils étaient en avance sur leur temps. Effectivement, ce n'était pas l'argent du contribuable qui avait payé ça. C'était un fils de famille, la cinquième fortune d'Amérique, qui avait dit, dont le grand-père avait été un grand financier et fondateur de WWF, World Wildlife Fund, qui avait décidé de financer ce projet. Donc, on ne pouvait pas dire c'est de l'argent volé aux contribuables. Et ce projet a coûté très cher, il a coûté 200 millions de dollars. Mais n'oubliez pas qu'on est à la fin des années 80, c'est encore les 30 glorieuses, c'est encore, il y a l'argent, on est à la fin, mais il y a quand même l'argent qui est là. Donc, ils sont une insulte. Puisqu'ils sont indépendants, on ne peut pas leur dire ci, on ne peut pas leur dire ça. Ils ont eu les experts du monde entier pour eux. Mais en même temps, leur vision dérange complètement les visions fragmentées de tout le milieu scientifique officiel. C'est-à-dire quand ils disent « le tout est plus que la somme des parties », c'est-à-dire la vie est plus que si on ajoute un plus un, ça fait deux. Et puis de construire la biosphère, c'était aussi de comprendre qui mange quoi. Il y a des histoires à mourir de rire là-dessus. D'ailleurs, c'était observer la vie absolument dans tout son de manière holistique. Donc, ils dérangeaient totalement l'establishment scientifique. Et ils étaient 20 ans en avance. Et ils étaient autonomes. Mais il y a eu des erreurs grossières qu'ils ont fait aussi, parce que ce n'est pas des petits saints. Ils ont beaucoup travaillé en circuit fermé, parce qu'ils étaient tellement occupés à faire leurs projets dans le monde entier, et celui-là à la fin, qu'ils se sont coupés du monde extérieur et coupés des médias. Et comme il y avait beaucoup d'argent à l'intérieur, et que c'était de l'argent privé, ils avaient peur. Et que les médias, et moi je l'ai vécu avec les gens qui venaient faire des documentaires, qu'on leur vole leurs trouvailles. Il aurait fallu breveter tout ce qui se passait à l'intérieur de la biosphère. Et les gens rentraient avant qu'elle ferme comme dans un moulin à filmer les Japonais. Alors les Japonais, ils levaient toutes les peurs parce qu'ils avaient peur qu'on leur vole des technologies, qu'on leur vole des trouvailles. Donc à la fois, ils voulaient ouvrir au monde entier pour que ce soit connu, et c'est ce qu'ils ont fait. En même temps, ils avaient peur qu'on leur vole ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc, ils fonctionnaient sur un mode corporatif, c'est-à-dire c'est une histoire privée, et en même temps, au niveau des médias, on ouvre tout. Et donc, c'était complètement une image complètement contradictoire, parce qu'il y a plein d'infos qui retenaient, qui ne disaient pas aux journalistes. Les journalistes disaient, ça sent le soufre là-dedans, il y a des choses qu'ils ne disent pas. Et puis, en même temps, il y a eu ABC Primetime, ils ont eu toutes les grandes émissions du monde entier à une époque quand la bulle s'est fermée. Et la deuxième chose, c'est que est sortie de la bulle au bout de 3 jours une femme qui s'est coupée le doigt. On a compté ses respirations, elle est revenue dans la bulle, mais là, ça a été le tollé général. On a dit, c'est une fraude, puisque au bout de 3 jours, mais c'était sûr qu'il y avait un médecin à l'intérieur de la bulle, mais il n'y avait pas de chirurgien. Et dans les médias, dans les communications, ils auraient dû dire « il n'y a pas de chirurgien ». Donc elle est sortie, on lui a recousu le doigt, elle est rentrée dans la même journée. Mais elle avait une petite sacoche où il y avait des documents, on a dit « elle a ramené de la nourriture ». Enfin, c'est devenu un mélo invraisemblable. Et donc, et ensuite, il y a eu, au bout d'un an et demi, la montée du CO2. Et on a dit « mais ça ne marche pas si le CO2… »
Il a fallu injecter.
La descente de l'oxygène. La descente d'oxygène au bout de quand même 18 mois. Et là, à nouveau, ça a été le tollé général. Mais moi qui m'occupais des journalistes aussi, et notamment des journalistes français, etc., je peux vous dire que ça m'a paru invraisemblable que les gens viennent 2 heures, un après-midi, et qu'ils prétendent parler de ce projet. Aucun journaliste Alors, les documentaristes sont restés longtemps, certains. Mais aucun journaliste n'a passé plus d'un après-midi à la biosphère. Même Paris Match, quand ils sont venus faire le dossier, ils ont passé du temps à faire les photos. Et moi, je me suis dit, c'est incroyable, ce projet. J'étais là. Comment ils peuvent en parler? Comment ils peuvent le retransmettre en ayant passé si peu de temps, interviewé si peu de gens et en venant avec des a priori et des préjugés aussi grands? À leur décharge, c'est vrai que c'était ce projet transdisciplinaire, holistique, le tout est plus que la somme des parties. On met tous les systèmes vivants à l'intérieur d'une bulle et on a des informations sur tous ces systèmes vivants, mais il y a des choses qui nous échappent. Il y a une part d'inconnu qui est la synergie de tout ça ensemble, y compris ce que va faire l'être humain. Et là, dans Bouddha et la biosphère, il y a Abigail qui dit « On croyait que c'était les systèmes vivants qui allaient nous lâcher. » Mais en fait, c'est les synergies humaines qui ont été très dures à gérer. Et ça, au niveau humain, le livre n'a pas encore été écrit sur ce qui s'est passé réellement dans la synergie humaine à l'intérieur de la bulle.
Est-ce que vous voulez... Oui,
oui, enfin, il y a quand même quelques livres qui sont sortis là récemment. Enfin, il y a un livre de Jane Poynter qui est une des huit à l'intérieur. Bon, c'est un livre qui n'a pas été traduit en français, qui s'appelle également The Human Experiment. Il y avait un livre de John Hennen qui s'appelait The Human Experiment, dans lequel elle parle abondamment des problèmes humains qu'il y a eu à l'intérieur, à l'extérieur. Et c'est assez bien décrit. Alors, le problème, c'est qu'il y avait des clans dans cette biosphère et que chaque clan est un peu, on va dire, biaisé par le parti pris du camp. Mais donc il faudrait que l'autre clan s'exprime. Oui, mais c'est comme dans toutes ces expériences, quand vous êtes dans un sous-marin, quand vous êtes dans une station spatiale, en fait, les gens dans des milieux confinés ont des entraînements extrêmement lourds pour apprendre à travailler ensemble dans des milieux confinés et pas avoir de heurts, quoi. Et d'ailleurs, les gens de la biosphère, ils étaient sélectionnés après des longs voyages en bateau, et le bateau est une excellente formation pour apprendre à vivre en groupe. À des moments, on peut faire la tête pendant des semaines aux gens, mais on continue à vivre en groupe, on s'isole. Et dans biosphère, ça a été un des échecs, c'est que justement, les tensions entre l'extérieur et l'intérieur font qu'à l'intérieur, les gens se sont scindés. Et par exemple, si on compare cette expérience avec les astronautes, il arrive que les astronautes, y ait des heurts entre eux, mais ils apprennent à contrôler. Mais en tout cas, la NASA ou les gens qui leur parlent, ils font un bloc et ils travaillent tout le long pour essayer de retisser les liens entre les gens. Ils savent que ça peut arriver. Et là, justement, il y avait un management à l'extérieur qui était, lui, scindé. Et c'est très difficile s'il y a un management...
Qui manipulait les gens.
Qui manipulait les gens. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout, ni dans les sous-marins, ni dans les stations spatiales. Et donc, qui a été une des erreurs aussi.
Mais il faut quand même dire que c'est des gens qui ne s'étaient pas choisis entre eux. C'est-à-dire, c'est pas un groupe qui s'est choisi. Ils avaient la même mission et le même appel. Ils voulaient tous vivre à l'intérieur de cette bulle. Il y avait 14 personnes qui ont voulu le faire. Il y en a 8 qui ont été sélectionnées. Mais la sélection finale ne s'est pas faite en fonction de leurs affinités électives. Il y a même des couples dont certains étaient à l'intérieur, le partenaire était à l'extérieur. Et dans le cas d'Abigail Alling, il y a une décision cruciale, parce qu'au départ, elle ne devait pas être responsable scientifique à l'intérieur de la bulle, c'est qu'on l'a séparée de son petit garçon qui avait 3 ans et demi. Mmh. Elle a accepté pour cette mission, mais il n'était pas prévu qu'elle y soit, parce qu'il y avait des gens à l'intérieur de la bulle qui n'avaient pas de diplôme. Ça aussi, ça a dérangé les gens. Ouais. Mais qui avaient simplement 25 années d'écologie de terrain. Et Abigail était une diplômée de Yale University, et ce qui rassurait le monde extérieur. Donc, ils ont été obligés de faire cette concession.
Alors qu'elle était très jeune, 27
ans. Elle avait 33 ans à l'époque, je pense. Mais elle n'avait pas prévu d'être dedans. Et il y a eu quand même des pressions avant même la fermeture de la bulle, donc en septembre 91, qui ont fait qu'in fine, c'est Abigail qui est rentrée dans la bulle et elle a dû laisser derrière elle son petit garçon. Et alors après, ça s'est retourné contre elle, parce qu'on disait, oui, il y a une diplômée, mais elle a laissé son petit garçon, c'est une mère. Donc, moi, je pense que tout est bon pour... vous savez, on dit... on accuse de la gale son chien quand on veut le tuer. Dès la première erreur, c'est comme le requin sur le sang. Tout l'establishment américain, scientifique, leur est tombé dessus.
En tous les cas, ce qui est assez terrible,
je trouve que cette expérience, elle est assez représentative de beaucoup d'utopies où finalement c'est jamais bon que ça soit la même personne qui crée l'utopie et celle qui est l'autre pour la réaliser ou l'opérer. Et il y a beaucoup d'utopies. Alors il y a l'utopie du communisme qui a été une absolue, enfin qui a tourné au vinaigre aussi. Il y a beaucoup d'utopies qui ont été mal gérées parce que le visionnaire derrière peut pas être le manager pour le gérer. Et je crois qu'il était prêt à aucune concession, John Allen.
Oui, mais c'était pas lui qui était le manager. Oui, c'était Margaret Augustine. Et moi, je pense que ce qu'ils ont prouvé, c'est qu'on peut être à la fois rêveur, utopiste et mettre les mains dans le cambouis. Et réaliser son rêve, y compris dans le dernier boulon, pour ficeler son rêve. Et là, je les ai quittés. Certains d'entre eux, ils sont en train de faire un bateau. Et ils construisent... Abigail Allin, qui a 50 ans, et son mari, refont un bateau entièrement à partir d'une coque. Et maintenant, ils vont partir en mer. D'ailleurs, aujourd'hui, je les salue bien, pour aller restaurer les récifs coralliens, puisque c'est la mission scientifique de ce bateau. Et il y a 8 jeunes à bord. Et quand je les ai interviewés, ils m'ont dit mais le fait qu'on ait tout reconstruit, le fait qu'on ait refait cette coque depuis 9 mois, fait que maintenant, il peut se passer n'importe quoi sur ce bateau. On sait réparer. Ils ont tous mis les mains dans le moteur. Ils ont tous monté les mâts. Donc, il n'y a pas de spécialiste. Ils savent tout faire. Ils savent y compris faire la cuisine. Donc, la biosphère vit sur ces bateaux. Elle vit, elle se poursuit. Parce que le bateau, comme dirait Gay, est aussi un bateau spatial. C'est-à-dire, la Terre est Spaceship Earth. Le vaisseau spatial de la Terre porte ce bateau qui est lui-même un vaisseau spatial. Et avec 14 personnes à bord, dont 8 complètement nouveaux qui n'ont jamais navigué, etc., et qui apprennent holistiquement à être cuisiniers. Ils vont faire du théâtre à bord, donc comédiens, techniciens, apprendre à vivre ensemble, parce que le bateau, c'est la métaphore de la biosphère aussi, puisqu'il faut tout faire à bord et tout recycler à bord, faire son eau, pêcher le poisson. C'est comme un petit vaisseau, et je suis assez émue qu'on fasse cette émission le jour même où ils mettent les voiles pour aller en Égypte et ensuite aller jusqu'au Sri Lanka et à Singapour et dans les îles indonésiennes.
D'ailleurs, c'est pas par hasard que le bateau s'appelle Mir, hein, ouais. Donc comme la station orbitale des Russes, et l'espace a toujours été très présent dans les inspirations des créateurs de Biosphère 2. Le John Allen, donc il s'est beaucoup, enfin il a conçu ce laboratoire écologique pour utiliser les interactions entre l'homme et les écosystèmes et les écosystèmes entre eux. Mais c'était aussi avec l'ambition un jour d'envoyer ces biosphères sur la Lune ou sur Mars ou sur d'autres planètes en vue d'étendre l'aventure humaine. D'ailleurs, la société qui gérait ça devait s'appeler Space Biosphere Ventures. Donc il y avait le mot space qui était très présent même dans le nom de la société qui gérait ça. Et le financier qui était derrière, lui, c'était ça. Son objectif, c'était de faire visiter cette biosphère.
Écologique aussi.
Mais aussi l'écologie comme étant la science à comprendre si on veut étendre l'aventure humaine au-delà de la Terre.
Quoi. Et donc, ça, c'est très américain. Parce que le rêve spatial, il est très peu français et très peu européen, pour finir. Et moi, en vivant avec eux, je me suis dit, c'est étonnant, ce rêve, ils voulaient aller sur Mars, en fait, parce que la NASA était très intéressée par leur projet, parce que la NASA a étudié les systèmes techniques pour aller sur la Lune, pour ça. Pour aller sur Mars, je crois qu'il faut 6 mois. Donc, il fallait... il n'était pas question qu'on vive de pilules ou de... Donc, ils trouvaient ça très intéressant, même s'il n'y avait pas de contrat avec la NASA, très intéressant d'avoir une bande d'allumés qui est financée par un privé, donc ce n'était pas de l'argent public, qui étudiait les systèmes vivants. Parce que pour aller sur Mars, il fallait vraiment emmener avec soi la vie et pas simplement des trucs en boîte, etc. Donc, il y avait pas mal de gens qui rôdaient autour de la biosphère, en plus des poètes, de Marlon Brando, de William Burroughs, et des gens qui trouvaient ça totalement onirique et comme une fiction, et qui étaient des gens qui étaient dans l'aventure spatiale. Parce que il y a qu'eux qui étudiaient les systèmes vivants et qui aussi reliaient technologie, mettaient la technologie au service du vivant. Ce dont on est en train de parler aujourd'hui, en disant qu'il faut que la technologie ne tue pas notre Terre, mais l'aide à survivre et à développer le vivant. Et eux, il y avait les machines pour faire le vent, la pluie, etc. Tout ce qui était technologique à l'intérieur était au service de la vie. Ça, c'est très important.
Alors, est-ce que ce qui n'est pas terrible, c'est que, vous l'avez très bien dit, à la fois Michel et Jean-Pierre, c'est que cette bulle, elle était faite pour aussi étudier toutes ces interconnexions. Vous avez très bien parlé, une pollution d'un côté se retrouvait à la limite dans le café le lendemain matin. Et ça allait très vite dans la mesure où la biosphère était toute petite.
Ouais.
Donc, cette interconnexion est close. Hein. Et qu'aujourd'hui, ça appartient, je crois que le site appartient toujours à la famille Bass, hein, cette famille donc, de milliardaires américains qui a fait sa fortune d'ailleurs sur le pétrole, entre autres. Et aujourd'hui, le campus, c'est l'université d'Arizona qui s'en occupe. Et à l'intérieur, et c'est ce que vous avez souligné, Jean-Pierre, c'est que tout est séparé maintenant, alors qu'il y avait cette interconnexion de tous ces systèmes-là.
Non seulement...
Aujourd'hui, c'est segmenté, c'est séparé.
Ah, c'est... Non seulement c'est séparé, mais ils ont fait les premières expériences qu'ils ont fait quand ils ont repris, la famille Bass a repris la biosphère et... Après, parce qu'elle n'a pas supporté d'être salie par les médias, d'être associée à un projet dont on disait c'est une fraude. Donc, l'establishment a gagné sur toute la ligne. Mais il a gagné aussi en ramenant sa vision fragmentée, puisque non seulement ils ont reséparé à l'intérieur les biomes, mais ils ont fait des études sur les gaz toxiques au départ. Alors que les gens de la biosphère, les fondateurs, les pionniers étudiaient la vie, eux, ont réinjecté du COD, ont étudié les processus de mort. Et symboliquement, je trouve que ça en dit long.
Oui, non, c'est... l'université d'Arizona, elle ne fait pas plus ou pas moins que ce qu'avait fait Columbia University. En tout cas, c'est géré de façon, complètement scolaire, cette expérience, et l'expérience ne se poursuit pas. Quand ils ont repris le dossier, l'université d'Arizona, dans son communiqué de presse il y a 2-3 ans, quand ils ont repris le site à Columbia University, ont dit qu'ils allaient éventuellement refermer la biosphère, recontinuer des expériences. Donc ça avait été perçu très positivement, notamment par les pionniers de la biosphère. Et puis finalement, ils ont dû revenir sur ce qu'ils avaient dit et puis envisager quelque chose qui n'a rien du tout d'ambitieux, quoi. Donc l'utopie, elle reste là. Il faut la réactiver, hein, différemment. Il faut la remettre au goût du jour. Je crois que c'est aussi une utopie qui a souffert d'être, Michel l'a dit, en avance sur son temps. Quand ils sont rentrés en 91, le sommet de la Terre de Rio n'avait pas eu lieu. Il était en 92. C'est vraiment le sommet de la Terre de Rio qui a porté le problème du CO2, le problème du réchauffement climatique. Et donc, ce n'était pas du tout quelque chose auquel le grand public était habitué. Maintenant, aujourd'hui, CO2, tout le monde sait ce que c'est le CO2. C'est très bien à quoi il est associé. À l'époque, pas du tout. Donc, la mission pédagogique de Biosphère devenait trop tôt. Et puis, une autre chose aussi, c'est qu'à l'époque, il n'avait pas Internet. Enfin, Internet, ça a commencé au début des années 90. Mais 93, c'était l'invention du World Wide Web. Donc, c'est le moment où la biosphère s'est terminée. C'est assez intéressant. Alors que, justement, cette expérience, si les gens à l'intérieur avaient eu le web pour pouvoir donner plus d'informations à plus de journalistes, ils auraient pu partager énormément de choses, avoir une communication qui aurait été beaucoup plus transparente, pas passer trop de temps avec les journalistes, parce que le problème, c'est que pour pouvoir parler à ces journalistes, il fallait les meilleurs, les gens les plus connus, et ces gens-là, ils devaient aussi travailler sur le projet. Donc le même type d'expérience avec le web aurait eu une toute autre perception et
ça aurait contrebalancé les versions officielles et complètement tronquées et réductrices, puisque même les gens qui auraient pu être favorables, de toute manière, ne passaient pas assez de temps pour comprendre ce projet. Moi, il a fallu vraiment que j'y vive 2 ans, pour 2 ans et demi, pour le comprendre. Et encore maintenant, c'est en écrivant des livres et en faisant des films ou en parlant des gens comme Jean-Pierre que je réalise à quel point ce projet était visionnaire, audacieux, absolument sur tous les plans, y compris ce groupe travaillait en même temps sur lui, c'est-à-dire les mêmes que je voyais diriger le chantier de la biosphère, comme mon ami architecte, jouait dans l'opéra de Katsu, au théâtre de Tucson, et faisaient leurs costumes, etc. Donc on avait des journées qui faisaient 15 heures par jour. On était à la fois artistes et tout ça, mais ce qu'ils ont été à l'intérieur de la bulle, est-ce qu'on doit retrouver aujourd'hui pour sortir de la fragmentation et de la réduction de l'image qu'on a de qu'est-ce que c'est qu'un être humain ?
Bien, je vous remercie. Merci Michel de Coust. Deux livres, premier à lire, c'est Le rêve de White Spring,
publié au seuil.
Et puis sinon, Bouddha et la biosphère,
ça, c'est qui un est film.
Un film que l'on peut peut-être acheter en DVD si on va sur un site internet. Et puis il y a bien sûr votre livre, Monsieur Jean-Pierre Gou. Il a pour titre Siècle bleu. C'est publié chez JBZ et compagnie. Voilà, c'est un roman. Et c'est en fait le premier tome d'une saga que vous poursuivez.
Il vient de sortir, hein, et c'est vraiment superbe. C'est d'une vie et d'un... On apprend énormément, et moi-même, sur la biosphère, par le regard jeune et frais et visionnaire de Jean-Pierre, j'apprends encore plus.
Voilà, et si on veut avoir aussi une idée de ce qu'est concrètement cette biosphère, en tapant sur un bon moteur de recherche ou en allant sur votre site, Jean-Pierre Gou, on a des images de cette biosphère et on voit que cette bulle ressemble comme à vraiment la nuit quand elle est éclairée. C'est un véritable vaisseau spatial.
Le bleu.org, tout attaché, siècle bleu.org, dans lequel j'ai mis pas mal d'informations sur la biosphère. Vous pouvez même la voir avec Google Earth, vous pouvez la voir depuis l'espace. Ça ressemble à un vaisseau spatial, ça ressemble aussi à des pyramides mexicaines qu'on voit dans le Yucatan. Enfin, il y a un côté très moderne et puis très ancien. Et puis allez-y, quoi, parce que même si à l'intérieur tout n'est pas rose, même si l'eau de l'océan est saumâtre, le site est fantastique. Puis c'est l'occasion de visiter l'Arizona, qui est une contrée extraordinaire. Donc allez passer quelques vacances là-bas. Il n'y a pas que Las Vegas dans ce coin-là, quoi. Donc,
Voilà, Voix contre oreille est terminée pour aujourd'hui. On se retrouvera demain matin à partir de 8h. Très bonne journée à vous tous.